Chapitre 7. L'Obersturmführer Fritz Bormann était de méchante humeur ce matin du 9 septembre, quand il se gara à 8h30 précise devant l'immeuble délavé de Rudolf Breuer. Cette ridicule mission de chauffeur espion l'ennuyait. Elle convenait à un sergent de la Wehrmacht, pas à un lieutenant de la SS. Ce n'était pas la peine, pensa-t-il, en allumant une Sulima, d'avoir subi une sélection aussi rigoureuse. Yeux bleus, cheveux blonds, pédigré racial, entraînement sportif et militaire, puis d'avoir prêté le serment des SS à la lueur des torches et reçu le poignard sacré. Honneur et fidélité. Tout ça pour jouer le babysitter d'un maigrichon qui, à l'évidence, avait très peu de sang arien dans les veines. Discipliné, Bormann s'en voulut soudain de ses pensées coupables. Le vrai SS devait d'être obéissant. Perinde ac cadaver, disaient les jésuites, obéissant jusqu'à la mort. Si le Reichsführer Himmler lui confiait cette mission, c'est qu'elle n'était stupide qu'en apparence et contribuerait un jour à la victoire finale du bien sur le mal. En attendant, il suffisait de serrer les dents. Sa mission, d'ailleurs, s'arrêterait dans quelques heures dès qu'ils arriveraient à Buchenwald. Tout en attendant, Fritz Bormann pensait à la blonde et pulpeuse Uschi, à qui il avait déjà donné 3 fils, tous baptisés selon les rites de la SS, et ils espéraient bien en avoir 3 autres. 6 enfants, comme le docteur Goebbels. Le minimum pour un Arien. Dès que la guerre serait finie, l'an prochain, Fritz et Uschi s'installeraient à la campagne, dans une maisonnette au toit de chaume, et ils auraient un grand verger où chanteraient les oiseaux. Ce rêve bucolique réconcilia Bormann avec Himmler. Au bout d'une demi-heure d'attente, l'Obersturmführer se décida à aller sonner à la porte de Breuer. Aucune réponse. Il insista. Cette fois, un bruit de pas se fit entendre. Le conteur de trombone apparut sur le seuil, se frottant les yeux. Il portait une robe de chambre d'un violet incertain, retenue par une ceinture à glands mauves. Bormann, pourtant peu porté sur le comique, fut sur le point d'éclater de rire, mais il se raidit, leva le bras et cria « Heil Hitler !» « Oh, c'est vous, Obersturmführer !» grommela Breuer d'une voix pâteuse. « Désolé, mon réveil n'a pas sonné. Entrez, je vous prie, et asseyez-vous. Je serai prêt dans 10 minutes. » Bormann claqua les talons. « Je vous attendrai dans la voiture, Oberfeldwebel. »« Unterfeldwebel !» corrigea Breuer. Rien n'était plus irritant que ses erreurs de grade. Le lieutenant secoua la tête. « Nein, à partir d'aujourd'hui, vous êtes Oberfeldwebel. » Une promotion exceptionnelle. Toutes mes félicitations. Breuer n'avait pas l'air très satisfait. C'était une promotion, certes, mais dans la Wehrmacht, alors qu'il aspirait à entrer dans la SS. Vous devez préparer une valise, Oberfeldwebel, reprit le chauffeur. Nous partons vers le sud, où vous attendent vos nouvelles fonctions. Une mission confidentielle décidée par le Reichsführer en personne. Breuer fit la grimace. Il détestait les voyages et les changements de rythme. D'ailleurs, s'il était devenu professeur dans une autre vie, c'était pour avoir un emploi du temps précis, avec des dates de vacances annoncées des mois à l'avance. Même à l'Abwehr, il avait des heures de bureau, ce qui ne l'empêchait pas, depuis quelque temps, de les dépasser. Comme cette dernière nuit, par exemple, puisqu'il était rentré à 3 heures du matin, après avoir rédigé d'une plume sûre la synthèse sur Martin Wurtz et le docteur Hoffmann. Les conclusions étaient accablantes pour les 2 traîtres. Il essaya de résister. « Mais je dois d'abord porter un rapport important au Reichsführer. Nous sommes déjà en retard, Oberfeldwebel. Mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout le loisir de parler de tout cela au téléphone avec le Reichsführer. Il m'a dit qu'il vous appellerait sans tarder. Mais je dois rester à Berlin pour m'occuper de ma mère mourante et par ailleurs les statues de l'Abwehr. » Bormann eut un sourire glacial. Cet impuissant commençait à les lui briser. Pas étonnant que sa pauvre mère fût à l'agonie. On le serait à moins. Le Führer y pourvoira. Oberfeldwebel, je vous attends dans la voiture. Il fit demi-tour et dévala l'escalier. Une demi-heure plus tard, la Mercedes-Benz 320 put enfin repartir. Bormann retourna vers le centre de Berlin, puis fila vers le sud-ouest en direction de Potsdam et de Leipzig. À bout de nerfs, il ne répondit même pas lorsque son passager lui demanda de faire un détour par l'affaire où il voulait récupérer le dossier Brutus. Le viril SS consentit à l'informer qu'il se rendait près de Weimar, où ils étaient attendus. Weimar ? Qu'allait-il faire dans cette ville lointaine, dont le nom tristement célèbre était associé à l'ancien régime, celui qui avait précédé la prise de pouvoir par Hitler ? Pour la première fois de sa vie, Breuer fut pris d'une vraie panique. Il avait jusqu'ici vécu à l'intérieur d'un cadre rigide, l'école, la grammaire, le doctorat, l'administration. Il avait besoin de normes, de règlements, de statuts, d'ordres, d'oukases même. Comme Moïse sur le mont Sinaï, Frau Breuer, du haut de son fauteuil, continuait de régenter la vie de son fils. Si celui-ci était resté célibataire, c'était parce qu'il n'aurait pas pu servir deux maîtres à la fois, sa mère et sa femme. Né dans une île de la Baltique, il se méfiait de ce qui était étranger à son territoire et n'avait jamais mis les pieds au-delà des frontières. Il connaissait l'italien classique, celui des livres, mais haïssait les dialectes, trop rebelle pour répondre au coup de sifflet du grammairien qu'il se flattait d'être. S'il détestait les juifs, les invertis et les baragouineurs du terroir, c'était pour cette raison. Ces gens s'écartaient des normes. Or, voici qu'on l'envoyait en Thuringe. Mission secrète, territoire inconnu, paysage non balisé, dialecte rural sans doute. Il faudrait tout reprendre à zéro, se créer des repères, élever des garde-fous. Non, décidément, pensa Breuer, il n'était pas fait pour l'exil. Pourquoi Himmler le trahissait-il alors que lui le vénérait? Et que pensait de Hitler, si ses adjoints étaient de tels hommes? Sans compter que, puisqu'on l'envoyait au bout du monde, du côté de Weimar, Hoffmann et les Wurtz allaient rester en liberté. Le dossier qu'il avait sur eux dans son bureau de l'Abwehr, et non, corrigea-t-il, son ancien bureau, recelait, preuves à l'appui, de lourdes accusations. Sa mère, au demeurant, ne lui pardonnerait pas d'être partie sans crier gare, car elle avait besoin d'un spectateur privilégié, son fils, pour théâtraliser sa propre souffrance. Dès lors que l'auditoire disparaissait, il ne lui restait plus sans doute, trahi par son fils unique, qu'à tirer sa révérence. Bormann conduisait à vive allure, car il lui tardait d'être à Buchenwald, de déposer son encombrant colis de l'autre côté des barbelés et de reprendre aussitôt la route de Berlin. Par chance, la circulation était fluide. Tout juste croisait-on de temps à autre des colonnes de camions militaires. De toute façon, même à 140 km à l'heure, on ne sentait pas la vitesse avec ce cabriolet. Comme il en avait l'habitude, le lieutenant fredonnait des chansons de Noël en conduisant. Ce n'était que le 9 septembre, mais la fête enchantée viendrait bientôt, malgré la guerre, réchauffer le cœur des soldats allemands. Freut euch, ihr lieben Leute, die Weihnachtszeit ist da, die Sterne glänzen festlich, der Himmel ist uns nah. Breuer, lui, n'aimait pas ces airs de Noël qui le ramenaient une fois de plus vers sa mère, vers son enfance, vers le froid, vers la Baltique, vers l'île de Rügen. Pour tenter d'oublier sa peur, il se mit pourtant à fredonner, lui aussi, cette chansonnette d'hiver, alors que dehors brillait le soleil de septembre. Ein Tor wird nun geschlossen, ein neues tut sich auf. Alors qu'il négociait un virage, Bormann aperçut trop tard le lourd camion de la Wehrmacht qui débordait largement sur sa gauche. Il donna un violent coup de volant vers la droite, mais ne put éviter le choc latéral. Déséquilibré, emporté par sa vitesse, le cabriolet décolla de l'asphalte, ripa sur le côté droit dans un hurlement de métal, puis termina sa course par une série de tonneaux 200 mètres plus loin. Les soldats bondirent du camion et se précipitèrent, mais Bormann, indemne, s'extrayait déjà de la voiture. Son passager était à la place du mort, la bien nommée. Projeté à travers le pare-brise, il avait été éjecté. Ce fut Bormann qui retrouva son corps broyé dans un champ de luzerne. « Ich hat einen Kameraden. »« Ja, Breuer avait finalement raison, pensa-t-il. » C'est près de sa mère, à Berlin, qu'il aurait dû rester. Le major Johann Drucker était un homme fiable. La veille, Christen et Tapa n'avaient eu aucun mal à localiser sa maison en pleine campagne, du côté de Sputtendorf. Niché derrière un haut mur couvert de lierre, C'était une belle bâtisse de 3 étages, construite au début du XIXe siècle. Au rez-de-chaussée, une façade à arcades néo-palladiennes rappelait les riches demeures d'Angleterre ou d'Italie. De part et d'autre du bâtiment central, des constructions plus modestes devaient jadis servir de commun. Christine y découvrit l'opel cadette de l'officier. Le plein avait été fait et la prévenance du major était allée plus loin. Il avait laissé 2 bidons d'essence dans le coffre. Sur la table de la cuisine, des provisions et des bouteilles de vin les attendaient. En cas de besoin, ils pourraient tenir plusieurs jours. Un mot amical était déposé sur la table que Christine lut avec amusement. « Mon cher Walter, je te suis reconnaissant de bien vouloir surveiller la maison en mon absence. Si le téléphone sonne, n'hésite pas à répondre. Laisse-moi une petite note sur les appels, même si mon absence risque de durer quelque temps. Le jardinier vient de temps en temps, mais je doute qu'il repasse avant le mois prochain. Comme je te l'ai dit, tu peux utiliser ma voiture en cas de besoin. Je la récupérerai chez Tante Barbara à mon retour. » Je te souhaite une prompte convalescence, Heil Hitler, ton cousin Johann. » Le colonel Barnes serait surpris d'apprendre que, contrairement à ce que prétendait la BBC, certains Allemands prenaient des risques considérables en protégeant les ennemis de Hitler. Il conviendrait de s'en souvenir après la guerre et d'obtenir pour le major, s'il revenait du front, la plus haute décoration anglaise. Les deux comparses passèrent une nuit reposante et, après un petit déjeuner frugal, reprirent le chemin de Berlin. Ils avaient des armes dans la voiture, mais Christine restait persuadée qu'ils n'auraient pas à s'en servir. Le combat qu'il attendait à l'Abwehr serait difficile, mais il se sentait prêt à l'affronter. À l'heure où Christine et Tapa repartaient pour la capitale dans leur voiture du corps diplomatique, une Olympia s'arrêtait devant le monastère de Horlingern. Le Standartenführer Julius Tott attendit que son ordonnance vînt lui ouvrir la portière et mit le pied sur le gravillon du parvis. L'instant d'après, il sonnait au portail. Comme toujours, le père Klaus Drucker ouvrit avec inquiétude. Celle-ci ne fit que croître quand il se trouva face à face avec un colonel SS. « Heil Hitler, mon père. Je suis le Standartenführer SS Julius Tott. Je viens vous entretenir d'un sujet confidentiel. » Y a-t-il un lieu où nous pourrions parler sans témoin ? » Le prêtre conduisit l'officier dans le parloir, où quelques jours plus tôt il avait reçu les 2 visiteurs de Londres. De toute façon, tout le monastère était sûr. Une bombe aurait pu tomber sur la chapelle sans troubler le sommeil des derniers moines. Marcher dans l'allée avait permis à Alcibiade de reprendre son souffle. L'officier ne semblait pas animé de mauvaises intentions. Il posa sa casquette sur la table et sortit un étui à cigarette. « Cela ne vous dérange pas si je fume ?»« Bien. Mon père, je viens vous informer que le monastère vient d'être réquisitionné pour une réunion secrète entre de hauts responsables du parti. Ils arriveront ici dans un avenir proche. Pour d'évidentes raisons de sécurité, je ne puis vous en préciser la date. Nous aurons besoin de 15 chambres. » Le moine hocha la tête. « Nous n'avons pas de chambre, Herr Standartenführer, mais d'humbles cellules. Cela conviendra parfaitement, mon père. À l'image de notre vénéré Hitler, nos chefs répugnent au confort. » « Quant à la cuisine, reprit le moine, je suis seul au fourneau, et nous ne mangeons que des légumes et du fromage. » L'officier s'octroya un sourire. « Un cuisinier nous accompagnera avec des provisions. De toute façon, notre nourriture à nous aussi est frugale. » Ce qu'il nous faut, c'est 15 chambres et une salle pour nos réunions. Je n'étais pas censé vous prévenir, mais quand j'ai vu votre nom, j'ai pris sur moi de venir en personne. Puis-je ajouter que le Führer est catholique et respecte toutes les religions, et en particulier la sienne. Saviez-vous que les épreuves de Mein Kampf ont été corrigées par un prêtre ? Non, Alcibiade l'ignorait, mais plus rien ne pouvait le surprendre. Il y avait bien une association de catholiques nationaux-socialistes, l'Aigle et la Croix. Le Führer apprécie le rôle éminent du pape dans la lutte contre le bolchevisme, ajouta l'officier. Le père Drucker hocha la tête. Sa jambe lui faisait mal, et il n'avait nulle envie de parler théologie ou métaphysique avec un colonel SS. « Et comment connaissez-vous mon nom, Herr Standartenführer ? » demanda-t-il. Le colonel se leva. Vous avez été mon professeur de philosophie à Cologne il y a 30 ans. C'est vous qui m'avez fait réfléchir sur la société. C'est grâce à vous que j'ai pris conscience qu'il fallait la changer. » Le nom de Julius Stott ne disait rien à Alcibiade, mais ses années d'enseignement appartenaient à une autre vie. C'est vrai, il avait été professeur, époux heureux, père de famille. Cette période lui paraissait si lointaine qu'il se demandait souvent si elle avait existé. Il ne renouait avec ce passé que lors de trop rares visites de son petit-fils. Avec sa jambe, il avait du mal à se lever. L'officier s'en rendit compte et lui tendit la main. « Merci de votre courtoisie, Herr Tott. Ce monastère est la maison de Dieu. Tous ses fils sont les bienvenus. » Alcibiade regarda s'éloigner son ancien élève. Il s'en voulait d'avoir été un mauvais professeur. Dans sa maison de Kirchenhausen, où elle était arrivée la veille, Elisa Wagner continuait de préparer le passage de la frontière. Violette avait déjà pris contact avec le vieux Karl, le contrebandier qui connaissait les moindres sentiers de la région, en particulier ceux qui menaient en Suisse. Elle avait toute confiance en lui car elle connaissait sa famille depuis toujours. L'homme ne s'intéressait pas à la politique, mais à l'argent, valeur plus sûre. Il n'essaya même pas de discuter le prix qu'elle lui proposa, dès lors qu'il sut qu'elle le paierait en dollars. Le passage de la frontière aurait lieu de nuit. Il faudrait d'abord, en fin d'après-midi, aller en voiture de Kirchenhausen à Zingen. Toute cette zone était très surveillée car la frontière y était fragile et poreuse, mais Elisa Wagner avait son plan. Les accessoires achetés à Fribourg permettraient de brûler la politesse aux crétins en uniforme. Dans quelques jours, quelques heures peut-être, elle serait en sécurité et jamais elle ne reviendrait en Allemagne. Tout était prêt. Restait le plus difficile, attendre. Rome. Mario Volponi poussa un cri de victoire quand, sur le coup de 10 heures, il venait seulement d'arriver à son bureau, son adjoint Fontevecchia vint, en se grattant le nez, lui apporter le message tant espéré. L'Hispano-Suiza, aux armes du Vatican, avait franchi la frontière italo-allemande à Brennero au petit matin du 7 septembre. Aucun doute n'était possible. Il s'agissait d'un barbu et d'un basané. « Voyez, Donato, s'exclama Volponi, vous voyez bien que j'avais raison. Et vous qui me parliez de vol de lapin. » Il congédia son sous-verge d'un revers de la main, ouvrit un des tiroirs et en sortit une petite bouteille de grappa. En principe, il ne buvait pas d'alcool avant midi, mais toute victoire mérite d'être fêtée dans l'instant. Il trinqua avec son double dans le grand miroir qu'il avait fait installer face au bureau afin d'être en bonne compagnie. Puis il prit une feuille blanche. Il fallait préparer une synthèse convaincante avant d'aller tirer les sonnettes germaniques. Ma foi, les choses pouvaient être dites simplement. Voyons, deux inconnus arrivent en Calabre en hydravion, en provenance de Malte, de Chypre, d'Égypte ou de Gibraltar, en tout cas d'un territoire contrôlé par les Britanniques. Une fois à Rome, les espions, car il ne peut s'agir que de cela, dérobent une voiture du corps diplomatique, une Hispano-Suiza du Vatican, avec la complicité d'un jeune voyou sicilien, Pietro Borghese, actuellement sous les verrous à Reggio. Détail intéressant, celui-ci se trouve être le neveu d'un prélat du même nom. Après quelques jours dans la capitale, les deux hommes traversent la frontière. Ils sont donc aujourd'hui quelque part en Allemagne, où il sera très facile de les localiser. Une heure plus tard, Volponi pénétrait dans l'arrière-cour d'un haut immeuble de la Via Madonna dei Monti. En passant sous le porche, il en profita pour donner un coup de pied à l'un des nombreux chats qui y avaient élu domicile. Le policier n'aimait pas les animaux en général et avait une aversion particulière pour les félidés de Rome. Dès que la guerre serait finie, il se proposait d'en débarrasser la capitale. Franco Montone, le correspondant de l'Abwehr, était un journaliste de 60 ans. Il tenait une chronique théâtrale dans un quotidien romain, ce qui lui procurait un modeste salaire et quelques avantages, dont celui de pouvoir inviter les jeunes femmes dans la loge qui lui était réservée. Contacté dès 1938 par un diplomate de l'ambassade d'Allemagne, il était devenu un agent apprécié des services de renseignement dans la capitale. Comme journaliste, il avait ses entrées partout, y compris au Vatican, d'ailleurs noyauté par l'abwehr. Tout cela mettait un peu de margarine dans les épinards, ce dont Montone avait grand besoin, car il était divorcé et versait chaque mois à son ancienne épouse une coquette prime de douleur, comme il disait avec bonne humeur. L'ennui, c'est que le Precium Doloris dépassait son propre salaire, ce qui prouvait au moins que son ex-femme souffrait beaucoup. Lui, Montone, n'étant même pas fasciste, aurait plus volontiers travaillé pour les alliés que pour les teutons. Mais les lois du marché conjugal sont rudes. Il fallait bien vivre. Volponi mit le journaliste au courant. Celui-ci hocha la tête. Oui, c'était intéressant. Il allait sans plus tarder en informer ses employeurs, lesquels, dans un premier temps, voudraient sans doute en savoir plus long sur Monseigneur Borghese, ce qui leur serait facile. Puis ils enverraient un câble à Berlin, sans doute dans la soirée. Il allait sans dire, ajouta Montoni, que Volponi recevrait, comme d'habitude, une petite enveloppe. Quelques minutes plus tard, Volponi se retrouvait via Madonna dei Monti. Sa voiture l'attendait quelques centaines de mètres plus loin. Il en avait besoin pour se rendre cette fois à l'ambassade d'Allemagne au Saint-Siège, ce qui lui permettrait de percevoir une deuxième enveloppe. Cette manière de procéder présentait un autre avantage. C'était lui-même qui confirmait, par Montone interposé, l'information qu'il venait de vendre aux Allemands. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Londres. En Angleterre, les grandes douleurs sont muettes et les pleurnicheries sentimentales hors la loi. Le colonel Barnes repartait pour Carlisle où il devait préparer une nouvelle opération et Jackson allait s'envoler le soir même pour l'Allemagne où il sauterait en parachute. Pas de quoi faire donner les grandes orgues, les buccins ou les violons. Les deux hommes se séparèrent comme s'ils se quittaient pour un week-end à Exeter ou à Liverpool. Ils se serrèrent pourtant la main, ce qu'ils faisaient rarement, et se forcèrent à sourire. Avant de monter dans le train, Barnes se souvint d'un détail dont il avait oublié d'informer son ami. « À propos, fit-il, j'ai revu Cockburn hier soir au club. » « Oui, tu sais, le colonel Cockburn des archives militaires. » Il a finalement retrouvé le dossier de Kristen Lloyd. Il n'avait pas disparu du tout. Quelqu'un l'avait classé à Kristen et non à Lloyd. En un mot commençant, notre homme a bien été blessé en 1915 alors qu'il se portait au secours d'un Français du 247e régiment d'infanterie. Il s'arrêta gêné. Il y avait des réalités qu'il hésitait à évoquer et des mots qu'il se refusait à employer. 8 jours avant cet acte de bravoure, poursuivit-il, Kristen avait été surpris en compagnie d'un jeune lieutenant. Il se livrait « Bon, tu m'as compris ». L'affaire aurait pu aller plus loin, mais comme il s'était conduit en héros, l'état-major a classé l'incident. Du coup, tout s'explique. Je suis maintenant prêt à parier que ce n'était pas Jutta Wurtz, mais Martin que Kristen aimait. « Ce sont des choses qui arrivent », murmura Jackson. « Chacun joue sa partition, et personne ne la choisit. Une partition douloureuse, en l'occurrence. Ah, pauvre Kristen !» Le colonel hocha la tête. « Pauvre Kristen ? Oh non ! Question de point de vue. Ils s'en tirent mieux que d'autres. Mieux que moi, en tout cas. Ma femme m'a trompé, et ma petite Peggy est morte. Peggy vit encore, Kevin, à travers toi. Question de point de vue. « Allons, mon vieux, prends bien garde à toi. Attention à ta ligne. Je t'envie de prendre des vacances en Allemagne. » »« Question de point de vue, en effet, » grommela Jackson en ravalant ses larmes. Berlin. Kristen Lloyd, alias Monseigneur Mario da Silva, arriva au quartier général de l'Abwehr à 11 heures précises. Des ordres avaient été donnés. Son entrée fit une nouvelle fois sensation. Le capitaine, qui à l'évidence attendait le prélat, se précipita vers lui et claqua les talons. Son éminence sera reçue par l'admiral Canaris et Herr Wurtz, déclara l'officier. Qu'elle veuille bien me suivre. Canaris en personne, Kristen n'en croyait pas ses oreilles. Un des hommes les plus puissants du Troisième Reich allait donc ainsi recevoir la visite d'un agent secret de Winston Churchill. Décidément, Laurence d'Arabie continuait de faire des miracles. Trois personnes se levèrent en même temps quand il pénétra dans le bureau de l'amiral. L'officier supérieur lui-même, dont le visage lui était familier, Martin, toujours aussi beau, et un inconnu à lunettes d'un âge incertain. Bien que protestant, Canaris était fasciné par le Vatican. Peu de gens à Berlin étaient mieux informés que lui sur ce qui se passait à Rome, où il contrôlait un réseau serré d'agents et d'informateurs. Il connaissait bien le futur Pie XII, quand celui-ci était encore nonce à Berlin, et tous deux se croisaient souvent dans les allées du Tiergarten. Le chef de l'Abwehr s'inclina devant le prélat. « Éminence !» Christen s'inclina à son tour. Les salam alek ecclésiastiques et les rondes jambes diplomatiques l'avaient toujours amusé. « J'ai l'honneur, Herr Admiral, de vous transmettre les respectueuses salutations de sa sainteté. » Les deux teckels de Canaris jaillirent soudain du coin de la pièce et se précipitèrent sur Christen, qui les gratifia de caresses. Il préférait les chats, mais savait que l'amiral nourrissait une étonnante passion pour ses chiens. Il fallait le prendre, et eux aussi, dans le sens du poil. Tout de suite, en effet, Canaris eut un sourire. Le visiteur ne pouvait pas être mauvais puisqu'il aimait cet teckel. « Permettez-moi, éminence, reprit-il, de vous présenter Seppel et Sabine, mes deux compagnons les plus fidèles, ainsi que mon traducteur de portugais, le professeur Schlauberger. » Aïe, songea Christen. Ce qu'il avait toujours craint arrivait. On allait tout de suite se rendre compte qu'il ne savait pas un traître mot de portugais. « Il n'est là que pour faire couleur locale, poursuivit Canaris. Votre dossier n'indiquait pas que vous connaissiez si bien notre langue. » « Oh, les Indiens parlent toutes les langues, » répondit Christen d'une voix très douce, « et ils les oublient tout aussi vite, je le crains. »« Votre langue maternelle est le Konkani, j'imagine, » intervint Schlauberger. Lloyd secoua la tête. « Non, Herr Professor, car je viens de Tiracol, au nord de Goa. Dans mon village, c'est la langue de Bombay que l'on parle, le Marathi. » Canaris se tourna vers Martin. Et je vous présente enfin Herr Martin Wurz, chargé des affaires indiennes. Christen s'inclina. Herr Wurz. Il avait prononcé Wurz comme il s'amusait souvent à le faire dans les années 30. Il perçut, l'espace d'un instant, un amusement dans le regard de son ami. Asseyons-nous, messieurs, fit Canaris. Ils prirent place dans des fauteuils. L'amiral fit passer une boîte de cigares et un étui à cigarettes. Il appuya sur un bouton, et l'instant d'après, une secrétaire arrivait avec des boissons chaudes. « Thé, café, servez-vous, messieurs, » reprit le chef de l'Abwehr. Puis il se tourna à nouveau vers Christen. « Je tiens tout d'abord, éminence, à vous remercier pour les précieux microfilms que vous nous avez remis hier. Nos techniciens travaillent dessus. Tout à fait impressionnant. Mais je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ce qui s'est passé au Caire. » Christen sourit et raconta tout. L'étrange comportement de son contact allemand, Herr Wolf, ses hésitations, son regard fuyant. Le prélat n'avait pas eu confiance en lui. Il prétexta que le livre de Laurence était resté à l'annonciature et fixa un nouveau rendez-vous auquel l'allemand ne vint pas. Pris de court, Da Silva préféra filer vers la Palestine où il comptait des amis sûrs. « Et puis je voulais visiter Jérusalem, un rêve de gosse, » ajouta-t-il. Après un long voyage, il était finalement parvenu à se rendre en Italie par des chemins détournés. Un curieux itinéraire, assurément, concéda Canaris en le fixant de ses yeux clairs. Les Indiens n'aiment pas la ligne droite, expliqua Christen. Mais, reprit l'amiral, notre ami Kurt Wolf nous a envoyé un câble à votre sujet, pour annoncer votre mort au Caire. Lloyd eut un large sourire. Votre agent cherchait à se couvrir. Il avait quelque chose à cacher. Je l'ai senti aussitôt. L'habitude de la confession me permet de déceler facilement le mensonge. Des formations professionnelles, en quelque sorte. D'autres informations sur Wolf ? Demanda Canaris, en direction de Martin. Oui, Herr Admiral. Tout semble indiquer qu'il travaillait pour les Anglais. Tiens, tiens, que le monde est imprévisible. Ainsi donc, éminence, vous êtes ici à Berlin pour quelque temps. « Pour quelques semaines tout au plus. J'espère ensuite repartir pour Goa. Pour l'heure, Sa Sainteté le Pape m'a confié une mission pastorale. Si ces informations sont exactes, il y a actuellement des milliers de prisonniers indiens dans les camps d'Allemagne. » Tous très bien traités, éminence, ce sont nos hôtes, non des prisonniers de guerre. Vous m'envoyez ravi, mais c'est leur vie spirituelle qu'il nous importe de protéger. Il y a des catholiques parmi ces prisonniers. La Croix-Rouge, je le sais, leur apporte une aide matérielle. Sa sainteté désirerait cependant aller au-delà. Elle pense que l'Asie sera demain le grand vivier de la chrétienté. Elle souhaite, vous le comprendrez, préparer l'après-guerre et m'a chargé de rencontrer celui qui sera demain le premier ministre de l'Inde, son Excellence Subhas Chandra Bose. Canaris eut l'air surpris. « Vous connaissez donc Monsieur Bose ?»«
Tous les Indiens le connaissent, Herr Admiral. C'est un grand homme d'État. »
Monsieur Bose est sous la responsabilité de Herr Wurtz, ici présent. J'imagine que rien ne s'oppose vraiment à ce que vous le rencontriez un jour, en présence d'un traducteur, car il parle très mal l'allemand, je le crains. Bien sûr, cela prendra quelque temps. Il y aura des autorisations à obtenir, notamment aux affaires étrangères. Qu'en pensez-vous, Martin ?
Wurtz hocha la tête.
Vous savez comme moi, Herr Admiral, que M. Bose part en voyage aujourd'hui ou demain. Dès lors, une rencontre officielle serait envisageable dès son retour de Hambourg. Il faudrait aussi, j'imagine, demander l'avis du docteur Goebbels. Une entrevue ici, à Berlin, entre le chef de l'Inde nouvelle et le représentant de sa sainteté, pourrait avoir un certain impact à travers le monde. Le chef de l'Abwehr eut un sourire. « Parfait, Martin. Je verrai cela sans tarder avec Ribbentrop et Kepler. J'essaierai, en tout cas. Au fait, où dois-je vous contacter, éminence, lorsque le rendez-vous sera pris ?»«
À l'annonciature, évidemment. »
Ah, natürlich. Eh bien, nous nous reverrons très bientôt, je l'espère. Je vous souhaite un excellent séjour à Berlin. Transmettez, je vous prie, mes respectueuses salutations aux nonces. Ah, je vois que notre traducteur a quelques mots à vous dire. Le professeur Schlauberger rougit. Il savait ce qu'il devait faire, puisque c'est l'amiral lui-même qui le lui avait soufflé avant la rencontre. Oui, éminence, fit-il. Les Allemands sont toujours heureux de rencontrer des Indiens proches de leurs idées, surtout quand ils viennent de Goa. Puis-je vous demander, par simple curiosité personnelle, quelles sont exactement vos fonctions à Panjim ? Christian répondit sans hésiter. Il se lança dans un long développement sur son passé à Goa, le grand séminaire Rachol, l'exposition sur Saint-François-Xavier. Schlauberger l'écoutait avec un intérêt évident, trop marqué peut-être. « Je vous remercie, éminence. » L'amiral reprit la parole. « Eh bien, nous nous reverrons donc dans quelques jours. Nous vous contacterons directement à l'annonciature. Martin, seriez-vous assez aimable pour reconduire notre hôte ?»
Wurtz se leva et fit signe à Christen de le suivre. La chance était de leur côté. Ils auraient quelques secondes pour communiquer, enfin.
Dès que la porte fut fermée, Canaris se tourna vers Schlauberger, qui n'était pas vraiment interprète, mais spécialiste de phonétique portugaise, et avait, à ce titre, souvent séjourné à Goa avant la guerre. « Alors, qu'en pensez-vous, Herr Professor ?»
L'homme fit la grimace.
« C'est un Indien. Tout chez lui est indien. L'accent, l'intonation, la musique de la langue, la gestuelle, les mouvements du visage, les hochements de tête. Son allemand, vous l'avez noté, est parfait. Perfection grammaticale, richesse lexicale. À vrai dire, je n'ai jamais rencontré un Indien dont l'allemand soit aussi bon. Oh, ce sont tous d'excellents linguistes, mais pas perfectionnistes pour un sou. La grammaire ne les intéresse guère et la phonétique est le cadet de leurs soucis. Conclusion, la prestation linguistique de ce Da Silva est impressionnante. Ce qui n'apparaît pas dans son dossier. Non, en effet. En tout cas, vous voilà fixé. Cet homme, je le répète, est Indien. Oui, mais est-ce bien Da Silva ? Procédons par ordre. Il ne peut pas venir de Pondichéry. Les Français, c'est bien connu, sont nuls en langue. Il ne vient sûrement pas de Goa non plus, puisqu'il ne connaît pas le portugais.
Comment le savez-vous ? Vous n'avez pas parlé portugais avec lui.
Inutile. Cela lui aurait mis la puce à l'oreille. Mais il n'y a pas l'ombre d'une trace d'accent portugais dans son allemand. D'ailleurs, il prononce mal Goa Velha. Il dit Goa Velha au lieu de Goa Velha. Canaris tendit l'oreille, mais ne perçut aucune différence. Bref, poursuivit Schlauberger, il prononce tout à l'allemande, jamais à la portugaise. Or, il n'y a pas de colonie allemande en Inde, que je sache. Les Indiens de Goa ne connaissent pas tous le portugais.
Certes, Herr Admiral, mais trouvez-moi un Goanais ayant enseigné au grand séminaire de Rachol qui ne connaisse pas cette langue.
Ah, c'est la prononciation qui trahit les gens.
Je connais des Russes qui, après 25 ans en Italie ou en France, restent incapables de rouler ou de grasseiller un R.
Avez-vous essayé de faire prononcer Raminagrobis ou Turlututu chapeau pointu à un Anglais? Ou si vous préférez Chamley ou Elsebiadis à un Français?
Autrement dit, triompha Canaris, ce prêt-là est un imposteur.
Oh, sans aucun doute, Herr Admiral, sans aucun doute, mais un imposteur de génie.
Curé peut-être, indien assurément,
goanais sûrement pas. C'est une impossibilité phonétique.
Canaris aimait ce jeu du chat et de la souris, et c'est pourquoi il s'amusait beaucoup à l'Abwehr, beaucoup plus que chez lui, en tout cas, où sa femme Erika ne s'intéressait qu'à la musique. Les choses désormais étaient claires. Da Silva était un espion. Restait à savoir s'il était un espion du pape, auquel cas il faudrait être prudent et réfléchir à deux fois, car toute la politique de Canaris tournait autour du Vatican. C'est à Rome, peut-être, que le jour venu, il parviendrait à négocier dans l'ombre une paix séparée avec les alliés. En imaginant le pire, c'est à l'ombre de Saint-Pierre qu'il trouverait refuge. Il faudrait jouer serré. Éviter surtout l'ingérence de Himmler et de la Gestapo. Si Da Silva venait d'Inde britannique, hypothèse qui n'était pas à exclure, la situation se compliquait, car cela signifiait que les Anglais leur préparaient un nouveau tour de cochon et que les microfilms étaient des faux. Canaris se frotta les mains. Il aimait les sacs de nœuds. Eh bien, on ne tarderait pas à en savoir plus sur ce Da Silva.
Canaris attendait justement un message de Rome.